Ok, Seigneur, notre Dieu, merci. Merci de bénir ta parole qu'on veut élever. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous conduire ce soir. Seigneur, on veut expérimenter quelque chose de particulier avec toi ce soir. Donne-nous un cœur tranquille, donne-nous un cœur concentré sur toi. Et on te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, de parler à chacun, à chacune d'entre nous. Amen. Alors, je vais quand même répéter le verset de l'année. Vous vous rappelez le verset 1 Timothée 3, verset 15. « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Alors, je ne développerai certes pas ce soir, en tout cas, ce verset encore plus, mais il y a encore une fois ce mot, si je tarde, il faut que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu. Et j'aimerais aussi ce soir peut-être vous parler, si la tablette veut bien, voilà. J'ai donné un titre un peu particulier, mais je vais quand même le dire, le titre. La présence de Christ et la gloire de l'Église. Je vais répéter encore une fois. La présence de Christ et la gloire de l'Église. Pourquoi je vais partir dans cette direction-là? Parce que si on sait cela, que la présence de Christ et la gloire de l'Église, la manière de se comporter dans l'Église qui est à Christ, elle est complètement différente, pour faire un peu la liaison entre le thème de ce soir et le verset de l'année 1 Timothée 3, verset 15. La présence de Christ et la gloire de l'Église. Je vais prendre un premier verset. 2 Corinthiens 8, verset 23. Le contexte, c'est l'apôtre Paul qui parle par rapport à l'offrande qui est dédiée aux saints qui sont à Jérusalem. Mais je vais rester sur les derniers mots à la fin. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, au pluriel, la gloire de Christ. Ça, c'est si vous prenez la Louis II. J'aime bien aussi de prendre français courant. En ce qui concerne Tite, il est mon compagnon ainsi que mon collaborateur auprès de vous. Quant aux autres frères qui l'accompagnent, ce sont les envoyés des églises et ils agissent pour la gloire de Christ. Et ils agissent pour la gloire de Christ. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler donc de mon la gloire. Pourquoi la gloire et pourquoi j'ai parlé de ça? Dieu a toujours voulu. Bonsoir. Dieu a toujours voulu faire un lieu, fixe un lieu géographique pour que nous puissions expérimenter sa gloire. Sa gloire fait partie de la vie chrétienne pour nous aujourd'hui, de la vie de notre relation avec Dieu. Et pour ça, pour vous mettre un peu dans le contexte, une des choses qu'il a fait, certes, avant tout le peuple d'Israël, Dieu avait, avec des personnes bien en particulier, que ce soit Noé, Abraham et d'autres, Jacob, Joseph, ils avaient une relation particulière qui, ça fait ce qu'on appelle les patriarches. Après qu'Israël était dans l'esclavage en Égypte pendant 400 ans, le Seigneur est venu les libérer, comme vous connaissez dans le livre d'Exode. Et là, il leur demande quelque chose de particulier. On voit ça à partir de chapitre 15, de construire une tente d'assignation. Dans d'autres versions, ça nous parle d'une tente de la rencontre. Plus précisément, sans donner trop de détails de ce qui se passait dans ces tentes, le fait qu'il y avait l'arche de l'alliance, le chandelier, l'autel de parfum, l'autel des sacrifices, la position, mais je ne parlerai pas de ça ce soir. Mais juste pour dire, c'est que Moïse, Dieu a demandé à Moïse, tu me construis un tabernacle pour que je puisse te rencontrer, pour que je puisse te montrer ma gloire, pour que le peuple eux-mêmes puisse voir la gloire. Sans entrer dans les détails du matériau, des choses comme ça, ce n'était pas un hasard tout ce que Dieu disait, parce que il y avait le tabernacle qui était au milieu et toutes les nations d'Israël campaient tout autour. C'est vrai, ils avaient une certaine distance. Ils devaient être par camp, que ce soit Juda, Benjamin et tout ce qui va avec. Mais peu importe où ils étaient, tous voyaient, en tout cas de l'extérieur, l'attente de la rencontre. Et quand il y a eu, on voit ça à la fin de Exode, quand il y a eu le montage, quand il y a eu le sang pour, comment dirais-je, pour oindre, on va dire, l'œuvre, là, il y a ce qu'on appelle la Shekinah, ou la présence de Dieu qui est venue dans la tente, plus précisément entre les deux chérubins sous l'arche de l'Alliance. Mais ce qui est surprenant là-dedans, c'est que même si le peuple qui était tout autour voyait la tente, il ne pouvait s'approcher que partiellement. Parce que, rappelez-vous que la tente, elle était divisée en trois parties. Il y avait ce qu'on appelle le parvis extérieur, le parvis intérieur où il y avait le chandelier, le parfum de l'autel des parfums, etc. Et il y avait le lieu très saint. Donc, les gens de peuple, on veut dire comme ça, pouvaient venir dans le parti extérieur, dans le parvis extérieur, mais ils ne pouvaient pas aller ni de l'intérieur, ni encore moins dans le lieu très saint. Pourtant, il y avait la présence de Dieu. Mais ce qui est surprenant, c'est que malgré ce qu'ils voyaient, parce que rappelez-vous, dans le livre de Deutéronome en particulier, quand Moïse raconte les étapes que le Seigneur les amène, comment ils bougeaient ? C'est en fonction de la présence de Dieu qui, elle s'élève, on part. Ça veut dire aussi que Dieu est un guide. Elle se pose, on reste. Dieu est celui qui donne du repos. Et malgré tout ce qu'ils voient, malgré, comment dirais-je, on va dire cette chose qui est surprenante, leur cœur était en Égypte. Leur cœur était dans l'esclavage. Qu'est-ce qu'on était bien ? Et c'est surprenant, l'être humain, il est vraiment borné, dans le sens que Dieu te délivre. Et c'est vrai que peut-être que, ok, il y a un désert à traverser, et là, notre cœur, il est dans l'esclavage, et on oublie même qu'on était esclave, qu'on souffrait et qu'on demandait à Dieu de nous délivrer. Mais revenons à la présence de Dieu. Donc voilà, il y a la Shekinah, il y a la présence de Dieu. Et malgré ça, leur cœur, comme je disais, ils étaient en Égypte, leur cœur, ils étaient éloignés, ils sont allés vers d'autres dieux. Ils se sont même construits en veau d'or, etc., etc. Mais il y a quelque chose de plus particulier aussi avec ces tentes. Premièrement, c'est une image que Moïse a vue. On voit ça dans Hébreux chapitre 8. C'est une image des choses qui est au ciel. D'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est qu'il ne parle même pas, Hébreux chapitre 8, il ne parle pas de temple, mais il te parle de la tente de la rencontre de tabernacle. Ça, c'est surprenant. Mais revenons, dans le sens que cette tente-là, elle était faite de certains pots, de certains matériaux, de certains, on va dire, de, ouais, des choses qu'on voit, des choses qui s'abîment avec le temps, des choses qu'il faut changer, des choses qu'il faut retravailler, des choses qu'il faut... peu importe. Et deuxième chose, des années après, on a la construction de temple, c'est exactement pareil. Il a pris 7 ans pour construire, il a été tellement magnifique, il y a eu des sacrifices qu'il ne pouvait même pas compter. Et la Shekinah, elle est venue aussi dans le temple. La présence de Dieu. Mais j'aime bien aussi, c'est que quand, tant qu'Israël bougeait de tente en tente, quand ils bougeaient dans leur voyage dans le désert, Dieu était dans une tente. Quand ils sont installés dans la ville, Dieu était dans le temple. Et le temple, c'est pareil. Tout comme la tente, il y a des réparations. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des améliorations, il y a des portes qui sont fermées, des portes qui sont ouvertes, etc. etc. Et malgré toutes ces choses qu'ils ont vues, qu'ils pouvaient expérimenter peut-être même dans leur esprit religieux, leur cœur n'était pas du tout attaché à la gloire de Dieu. Leur cœur, peut-être qu'ils se sont habitués. Ah oui, c'est tout à fait normal que la manne tombe du ciel. Sans reconnaissance. En fait, leur cœur au niveau du temple, c'était le plus grand problème, c'était le problème principal avant la déportation, c'est que Israël était poussé toujours vers les idoles. Et Dieu a amené un jugement avec la déportation de Babylone. On dirait que je vous fais carrément le survol de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas grave, c'est pour en revenir dans notre message. Mais de se dire, voilà, Dieu a amené un jugement parce qu'Israël était tourné, leur cœur était ouvert aux idoles. Mais c'est surprenant. C'est-à-dire que Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Rappelez-vous que premièrement, il a délivré le peuple. Deuxièmement, il a pris soin, il les a nourris, les habits ne s'usaient pas. En quelque sorte, ok, il travaillait, mais il y avait la nourriture, il y avait la provision. On manquait de l'eau, il y avait toujours une provision. Rappelez-vous ce rocher qui les suivait dans le désert, qui est Christ. Et malgré ça, leur cœur était éloigné. Et on peut se poser aussi la question, nous, autant que croyants, on a la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on aurait fait dans ce cas? Oh oui, c'est normal. C'est normal que Dieu, oui, c'est vrai, il y a le temps, il a rempli la nuée, il a rempli ce temple. Il était tellement magnifique que même, là, prenez l'exemple, la reine de Saba qui est venue, Saba, qui est venue visiter le temple. Ça devait être quelque chose de grandiose. Et malgré ça, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Parce qu'en fait, en réalité, déjà, oui, c'était dans cette maison-là, c'était dans la direction de cette maison qu'on priait, que le Seigneur exorçait. Rappelez-vous, Anne, quand elle venait dans le parti, dans le périmètre, le premier, j'ai oublié le mot, à l'entrée de la tente de la rencontre, dans le parvis. Elle priait pour avoir un fils, ce fils qui est... Oui, Dieu a répondu. Heureusement, il y a des cœurs qui ont été sincères. Vous prenez quelqu'un comme Josué qui a expérimenté une relation personnelle avec Dieu dans ses tentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, son attitude n'était pas pareille. N'était pas tournée vers l'Égypte. Son attitude était, Seigneur, je veux ta gloire. Seigneur, je veux te glorifier. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux te croire, même si mes yeux me disent le contraire. Et au temple, c'est pareil. Quelqu'un comme David, j'avais fait il y a pas mal de temps un partage ici, il a tellement préparé avant sa mort pour la construction du temple, que ce soit le matériau, que ce soit l'équipe des louanges, ceux qui ouvrent les portes, ceux qui entretiennent, etc., etc. Salomon qui a construit. Et pourtant, le peuple était bien loin de cette présence. C'est comme si ce peuple, le peuple, ne chérissait pas la présence de Dieu. Et c'est un piège qui peut nous arriver, même pour nous. Mais pour nous, c'est un peu différent. Rappelez-vous ce que je disais, c'est que la tente, le temple, la tente et le temple, c'est fait par des matériaux que nous on voit. Mais maintenant, on arrive à l'église. Qui bâtit l'église? C'est pas nos mains. C'est pas les mains d'un être humain. Pourquoi? Parce que déjà, oui, c'est Christ qui bâtit l'église. C'est Christ qui a sauvé. C'est Christ qui sauve aujourd'hui. C'est Christ qui ajoute à son église. Ah, c'est pas la même construction. Je n'ai même pas regardé mes notes, mais c'est pas grave. Tout ça pour revenir regarder ce que Dieu dit à Moïse dans Nombre 14. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui? Comme je disais, c'est Christ qui bâtit l'Église, Matthieu chapitre 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtis mon Église. C'est pas tu bâtis, c'est je bâtis mon église. Personne ne peut construire une église. Pardon, Matthieu 16, verset 18. Comme je disais, seul Christ rachète et c'est seul Christ qui ajoute des membres à son église. Une église n'est jamais bâtie par des hommes ou par les ministères des hommes ou par des pasteurs ou par des évangélistes ou autres. Nous sommes tout simplement des instruments entre les mains de Dieu. Mais c'est Christ qui bâtit son Église. C'est Christ qui rajoute à son Église J'aime cette expression dans le livre des Actes. Ce acte chapitre 2, ceux qui vont être, ceux qui doivent être sauvés, ceux qui doivent faire partie du corps de Christ. Rappelez-vous dans le livre des Actes chapitre 2, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans la prière. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, ah, j'aime cette expression, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est Christ qui bâtit son Église. Mais non seulement il bâtit son Église, rappelez-vous, hein, 1 Pierre 2, 4, approchez-vous de lui, pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Waouh! C'est nous! Il n'y a plus besoin, au bout de X années, de changer le matériau parce que nous sommes démodés. Ou parce que nous sommes mangés par la rouille, ou parce qu'il y a trop de clous qui ont traversé le bois que nous sommes. Nous sommes les pierres vivantes. Et de ces pierres vivantes, Christ qui bâtit son Église a bâti un temple. Rappelez-vous Apocalypse chapitre 1, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Waouh! Et puisque nous sommes le temple, et les pierres vivantes, il ne manque pas quelque chose. Si dans la tente, il y avait la présence de Dieu, si dans le temple, il y avait la présence de Dieu, nous sommes le temple, il faut la présence de Dieu. C'est-à-dire que nous avons en nous la présence de Dieu. Mais ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, il y a dans l'Ancien Testament, on pouvait s'approcher de la gloire de Dieu, ou même peut-être toucher un peu de la sainteté de Dieu, très partiellement, très éloigné, tout simplement parce que l'œuvre n'était pas accomplie. Rappelez-vous Jean chapitre 19, quand tout est accompli, tétélestai, le rideau qui séparait le saint de lieu très saint, il s'est déchiré. Maintenant, nous avons accès au Père. Chaque jour, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. C'est-à-dire que voilà, nous sommes les pierres vivantes, nous sommes le temple et nous sommes remplis de son esprit. Nous sommes scellés de son esprit. Et ce n'est pas comme dans le livre des Nombres, dans le livre des Deutéronomes, où la Shekinah s'enlève, elle part. Oui, Dieu peut nous conduire, heureusement qu'il nous conduit, mais ce n'est pas comme le Saint-Esprit qui vient en nous. Donc, je repars, je vais vers l'autre, je repars, je vais vers l'autre. Non, non, non. Il demeure, nous sommes scellés. Le mot scellé, rappelez-vous, c'est un sceau royal, c'est quand le roi décide de quelque chose, c'est décidé, irrévocable, d'après la loi des Mèdes et des Perses. Rappelez-vous ce passage. Mais je veux dire par là, c'est que nous sommes scellés de Saint-Esprit. Ça veut dire que, voilà, nous sommes des pierres vivantes, nous sommes le temple, nous tous nous formons le temple et le temple est rempli de la gloire de Dieu. Waouh, quel destin merveilleux pour l'Église. Et c'est ça l'Église. Il est vrai que beaucoup de croyants, ils sont les pierres vivantes, ils sont le temple, mais ils n'aperçoivent pas ou ils ne sont pas sensibles à la présence de Dieu. Ils ne sont pas sensibles à la gloire de Dieu. Peut-être qu'ils sont un peu comme Moïse. Ok, j'ai reçu ce trésor dans mon cœur, je vais peut-être me couvrir le visage comme ça, ni vu ni connu. J'essaie de me conformer un peu. Mais nous sommes appelés à ne pas se conformer. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans vos pensées, etc., etc. Nous sommes cette pierre précieuse que Christ a vendu le champ pour trouver, a acheté ce champ pour trouver cette pierre. Rappelez-vous cette parabole. Nous sommes les trophées de Christ. C'est fabuleux. Donc, il est vrai que nous sommes ce que nous sommes, par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, on peut être insensible de la présence de Christ. Pourtant, quand deux ou trois sont assemblés en son nom, nous sommes là. Mais parfois, ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas émotionnellement que Christ n'y est pas. Christ, il est par la foi. On ne peut pas le voir. Le vent va dans un sens, il vient dans un sens, il va dans l'autre, on ne sait pas où il va. Mais voilà, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes le temple et ce temple est rempli par la gloire de Christ. Et c'est pour ça que je disais le titre, la présence de Christ et la gloire de l'Église. Mais allons-y un tout petit peu plus loin. Quand nous sommes remplis de l'Esprit du Seigneur, et nous sommes remplis, c'est pas quand, puisque nous sommes remplis de sa gloire, en fait, il y a une conséquence visible. Je ne sais pas si le mot conséquence visible, je n'ai pas trouvé d'autre mot. Il y a une conséquence visible. La joie. La joie du Seigneur est notre force. Dans le sens que parce que je suis rempli de Saint-Esprit, même au milieu de la tempête, je peux être dans le repos. Même au milieu de la tempête. Rappelez-vous l'apôtre Paul quand il a fait naufrage avec le bateau. Je sais en qui je crois. Je sais, et Dieu m'a dit que toutes ces âmes, il me les a confiées. Je suis rempli de Saint-Esprit, même quand je suis dans la prison. Quelle était la réaction de Paul quand il était en prison? Il chantait les louanges de Dieu. Waouh! Et nous, c'est pareil. Voilà, nous sommes des pierres, nous sommes le temple, autant qu'Église, nous sommes le temple que Christ, par sa vie, l'a bâti et qui rajoute des âmes chaque jour à l'Église et nous sommes remplis de son Esprit. Waouh! Et c'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'être conformes à ce monde. Mais prenons. Dieu nous a donné des outils pour qu'on puisse, comment dirais-je, apprendre à discerner toujours plus sa gloire et sa présence. Un des outils, c'est la parole de Dieu. Si je ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, comment je peux savoir que Dieu est là? Parce que Christ est lié à la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était Logos, la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. La prière. Si je ne prie pas, comment tu peux dire, Seigneur, merci pour ta présence? Tu peux devenir insensible. Et je pense que le peuple hébreu, qui est un exemple pour nous aujourd'hui, hein, ce n'est pas pour les juger, hein, mais c'est un exemple pour nous, je pense qu'ils étaient insensibles parce qu'ils n'ont pas pris Dieu au sérieux. Parce qu'ils n'ont pas saisi les promesses de Dieu qui sont oui et amen. De Corinthiens chapitre 1. Je crois qu'ils n'ont pas cru ce que Dieu disait de eux, qui sont la lumière du monde, qui sont un royaume pour servir les nations. Je crois qu'ils se sont enfermés ou ils ont même essayé d'enfermer Dieu dans une boîte. C'est beau, Dieu est juste dans l'arche de l'Alliance. Et toutes ces choses font qu'ils sont devenus insensibles à la présence de Dieu. Par contre, dans le livre de Josué, au début, rappelez-vous, hein, pourquoi ils avaient toutes ces victoires-là? Ce n'est pas juste parce qu'ils étaient les meilleurs, les plus forts, les plus nombreux, ceci ou cela. C'est parce qu'ils étaient conscients que c'est Dieu qui combattait pour eux. Et lorsqu'ils se sont dit, « Oh Seigneur, on ne veut pas te déranger, ça va, reste sur ton trône. » Avec Haï, boum, ils ont perdu. Waouh! Parfois, il se peut aussi que par ignorance, nous ne réalisons pas la présence de Dieu. Rappelez-vous ce que Jacob disait quand il a fait avec un coussin avec sa pierre. Ça ne devait pas être confortable. Dieu était là et je ne le savais même pas. Waouh! Moi, j'aimerais bien que des gens, quand ils viennent dans cette église, et ils se disent, waouh, Dieu est là. Il n'y a pas longtemps, je finissais un Corinthien. Vous savez, en Corinthiens 12 et en Corinthiens 14, qui nous parle des dons, ça c'est cela. Et puis il y a un don particulier, c'est le don de prophétie. Alors le don de prophétie, ce n'est pas celui qui dit ainsi par l'Éternel, etc. Le mot don de prophétie, c'est celui qui explique la parole, celui qui élève la parole, celui qui. Que dans sa bouche, il n'y a que la parole de Dieu. C'est ça le don de prophétie. Et ce qui est drôle, c'est que dans tous les dons qu'il y a, celui qui parle en langue, celui qui est pris par l'esprit, ceci ou cela, c'est le don de prophétie qui est mis en avant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a un non-croyant qui vient, on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, il y a un non-croyant qui vient dans l'église, parce que tout le monde élève la parole de Dieu, son cœur le condamne et ça le pousse à adorer Dieu. Ouais, je trouve que c'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais ça aussi, c'est la parole de Dieu qui fait, c'est la présence de Dieu. Pourquoi les gens, quand ils viennent dans cette église, ils disent « Waouh, je me sens vraiment bien ». Ce n'est pas parce qu'on a mis les plus beaux habits, parce que peut-être comme aujourd'hui, nous sommes hyper fatigués, parce que nous avons un planning hyper chargé, parce que mon boss, il m'a fait ceci ou cela, parce que je suis malade ou ceci. Non. Ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu, la présence de Christ. Et je vais répéter encore une fois le titre. La présence de Christ, c'est la gloire de l'Église. Une Église qui grandit spirituellement, qui grandit dans la maturité, dans la connaissance, comme l'apôtre Paul qui encourage dans ses lettres, hein, croissez dans la connaissance de la parole de Christ. Croissez, croissez. Cela est possible seulement par la présence de Christ ou la Trinité, si vous voulez. Rappelez-vous ce verset Apocalypse chapitre 3, verset 20. Hein, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Christ a fait. C'est ce que la table, elle est là. Elle est devant nous. Nous avons entendu l'année passée. Je dresse une table en face de mes ennemis. On a juste besoin de les réaliser. Elle est là. La présence de Dieu, peut-être qu'on ne l'aperçoit pas, mais elle est là. Parce que quand deux ou trois sont assemblés, Christ est là. Mais voilà, si j'ai pris, sans aller trop dans les détails, je ne vais pas faire très long. Je voulais parler vraiment que la présence de Christ au milieu de nous fait la différence. Vous voulez que ça change quelque chose sur Lyon, sur Sion, sur Lausanne. Ici, la présence de Dieu fait la différence. Dans notre famille, la présence de Dieu fait la différence. Et c'est ça. En fait, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Philippiens 4. Nous sommes des pierres vivantes. Ce n'est même pas de matériel qui va s'user. De ces pierres vivantes, il a fait un temple. Et de ce temple, il a fait tout simplement un témoignage. Un temple. La reine de Saba, quand elle est venue à Jérusalem, elle voyait de loin. Je dis, waouh! On m'a dit des choses sur toi, mais alors là, waouh! On m'a même pas dit la moitié. C'est le témoignage, c'est le temple. Nous sommes le temple de Dieu vivant. C'est le témoignage. Parfois, on rencontre à l'évangélisation des gens qui disent « Ah oui, je connais cette église. » Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont se dire « Oui, j'ai entendu un peu. » Mais peut-être que le jour où ils rentrent dans l'église et qu'ils vivent la présence, qu'ils voient la présence de Christ, ils disent « Waouh, on ne m'a même pas dit la moitié. » C'est fabuleux. Que demander de plus ? On a tout. On a tout. C'est pour ça que chérissons la présence de Christ. Chérissons parce que même si on traverse des choses difficiles, comme l'apôtre Paul dit, je suis abandonné de tous, oh non pas de tous, Dieu est là. La présence de Dieu, c'est ce que je cherche, c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui me donne la force, le courage de tenir ferme malgré le feu. Qu'est-ce qui a sauvé les trois amis de Daniel dans la fournaise? C'est pas leur courage, c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a fermé la gueule au lion? C'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous aimons nous réunir ce soir? C'est la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on élève la parole. Dans la présence de Dieu, on déverse nos cœurs dans la prière. dans la présence de Dieu. On adore tel qu'il est. Nous n'avons pas besoin de voir la présence et notre cœur est éloigné de Dieu. C'est ce que les pharisiens ont fait. Ils avaient Dieu présent en face d'eux. Ah, j'aurais tellement voulu être là. Mais leur cœur n'y était pas. Ils avaient une connaissance, mais une théologie peut-être dingue. Mais ils n'avaient pas la présence de Dieu. Je prends quelqu'un comme Étienne, on ne connaît pas grand-chose de sa vie. Mais son visage était comme celui d'un ange, parce que la présence de Dieu l'habitait. Je regarde son discours un peu en détail. Je dis, waouh, waouh, c'est fabuleux. Et la présence de Dieu qui est en nous, ça ne vous a jamais arrivé que certaines personnes vous racontent des choses extrêmement difficiles. Moi, une fois, j'étais avec pas mal de vous, quand on a évangélisé sur Lyon. Et après l'évangélisation, je me suis assis là où il y a la statue, là. Il y a une dame qui commence à me dire mais des trucs, mais je dis, mais je me suis fait violer, ceci ou cela. Et j'ai eu cette pensée en disant, mais pourquoi elle me raconte ça? Il y a une autre pensée qui me dit, mais il ne me raconte pas à moi, il raconte à Christ qui est en moi. Peut-être c'est cette femme, je ne l'ai jamais vue, peut-être je n'ai peut-être jamais la revoir, mais elle avait besoin de parler peut-être à Christ qui est en nous. C'est osé de dire que Christ est en nous, non? Parce que déjà, un, la Bible dit, et deux, nous sommes le temple. Imaginez, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu comme, vous savez, cet homme-là qui était boiteux au temple, il ne pouvait pas entrer dans le temple. Et Pierre et Jean, ils passent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il n'est pas resté là-bas. Il est rentré dans le temple, sautant de joie. Nous nous sommes dans le temple, exprimons notre joie, témoignons, laissons Dieu nous utiliser. Que dire de plus? Il nous a tout donné. Et si on persévère, Dieu va ajouter pas à pas des âmes. C'est fabuleux. Nous sommes des pierres vivantes, nous sommes le temple rempli. Donc, je vais répéter pour finir. J'ai dit que je vais finir tôt. Le titre. La gloire de Christ. Non, la présence de Christ et la gloire de l'Église. Je crois que c'est ça le titre. Je ne suis pas encore arrivé. La présence de Christ et la gloire de l'Église. On peut réfléchir à ça. La présence de Christ et la gloire de l'Église. Waouh! Quand le Saint-Esprit viendra, quand Christ viendra prendre son Église, on le répète souvent dans cette Église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la sono, ce n'est pas la caméra ou autre. C'est nous. C'est nous. Chérissons. Chérissons la présence de Christ, car lorsque nous chérissons la présence de Christ, notre comportement, notre engagement change envers l'Église. C'est pour ça que malheureusement, on met pas en doute le salut de certaines personnes croyantes, des chrétiens, des chrétiennes, mais je crois qu'ils ne chérissent pas la présence de Dieu. Et ils vivent leur vie, moi j'en connais malheureusement quelques-uns, ils vivent leur vie de chrétiens, mais en solo. Et je suis persuadé, je ne mets pas en cause leur salut, hein, mais je suis persuadé qu'ils ne vivent pas la plénitude de la vie. Peut-être cette vie Zoé que Christ propose quand nous sommes assemblés. Parce qu'on peut dire, waouh, Seigneur, je vais raconter une histoire un peu drôle. Justement d'un chrétien un peu soliste. C'était un chrétien qui était dans un champ de vaches. Et il priait, il dit, waouh Seigneur, merci parce que vraiment, je sens ta présence, waouh, c'est fabuleux. Et tout d'un coup, il y a une vache qui fait, tu vois, c'était drôle, mais voilà, pour lui, c'était comme ça. Mais je veux dire, par là, c'est qu'on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de, voilà, on a besoin d'être ensemble, et ensemble, nous chérissons la présence de Dieu, ensemble, nous chérissons la parole. Ensemble, nous chérissons la communion. Et c'est ça. C'est ce que Dieu a toujours voulu. C'est pour ça qu'il a donné un tabernacle, un temple. Il a fait de nous une église parce qu'il veut nous rencontrer. Rappelez-vous, moi c'est un de mes versets préférés, Genèse 3, 9, où es-tu? Je veux te rencontrer. Tout est déjà accompli, tout est déjà payé, mais où es-tu? Ne te cache pas, viens dans ma présence. C'est vrai, il y a un autre point que je n'ai pas dit. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on peut se sentir nu, on peut se sentir, on va dire nu. Mais lui, il nous revêt des habits de justice. Il nous revêt de sa gloire. Wow. Mais voilà, la présence de Christ, c'est la gloire de l'Église. Amen. Voilà, chérissons parce que ça vaut le coup. Et quand je demandais à Dieu de me parler, de me donner quelque chose de particulier, pour ce soir, il faut que je fasse attention quand je prie parce que c'est pas toujours physiquement, c'est pas toujours le plus génial, mais dans mon cœur, en fait, ça bouillonnait. Et en fait, je disais, chérissez la présence de Christ cette semaine, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Là où je bosse, comme voiturier, il y a énormément de pièges. Mais quand je dis énormément de pièges, des poteaux, des outils, de tout ce que vous voulez, ben là, cette semaine, ça fait boum. Je dis, c'est pas bon ça. Ben, j'ai abîmé une voiture. Mais une voiture, j'appelle un peu pas grand-chose. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je viens de commencer. Mais en fait, j'étais dans le repos, j'étais dans la présence de Christ, j'étais vraiment d'un calme. Ok, ça m'embête un peu parce que. Voilà, je me suis dit, j'ai fait une bêtise alors que je suis censé montrer le meilleur. Mais en fait, non, ce que tu as besoin, c'est tout simplement de vivre la présence de Christ en toutes circonstances, en toutes saisons. Et lui, il s'occupe de tous les détails. Et lorsqu'on vit comme ça, en fait, on a un cœur qui est léger, on a un cœur qui est doux, on a un cœur qui... Pas qu'ils sont fous des circonstances, non. Mais je veux dire, nous ne sommes pas accablés. Peut-être qu'en Ukraine, en Russie ou ailleurs... Les gens qui traversent des guerres, des maladies, des souffrances, ou des deuils ou autre chose, ils peuvent être dans le repos parce qu'ils sont dans la présence de Christ. Rappelez-vous, c'est Élisée, quand il y a avec son serviteur, et puis son serviteur, il voit toute une armée qui vient envahir Israël. Élisée, il était dans le repos. Il dit, mais pourquoi tu t'inquiètes avec nous? Il y a bien plus. Pourquoi? Parce qu'il réalisait la présence de Dieu. Il était centré sur la présence de Dieu. Il n'y a que ça qui comptait. Même si naturellement il se faisait envahir par l'ennemi, je ne crains pas. David, il a bien compris cela. Quand il va vers Goliath, toi tu t'avances naturellement, moi j'ai Dieu, moi j'ai la présence de Dieu. J'aurai la victoire. Mais voilà, la présence de Christ est la gloire de l'Église. Amen.